Je mange bien, tout va bien, le podcast.
Inspirez le pied gauche, remis au pied droit, ouvrez le pied droit, expire, pied gauche devant. Posez les mains, ouvrez la poitrine, allongez la colonne. Inspirez. Et on y va, pied gauche en avant. Cheval.
La puissance du cheval, les griffes du lion, l'attaque du cobra, le paon qui déploie ses ailes. Le Kalari est basé sur l'inspiration de la nature et des animaux en posture de combat. Au total, ils sont 9, l'éléphant, le cheval, le lion, le poisson, le chat, le cobra, le sanglier et le coq. Un enchaînement, une chorégraphie ancestrale à apprendre pas à pas.
Mai signifie le corps, Tayat signifie l'entraînement. Ok, donc l'entraînement du corps ici se traduit par un enchaînement d'animaux, de gestes d'autodéfense. Ok, le tout servant à exercer l'endurance, la souplesse, la coordination. On va pas trop loin dans la chorégraphie. On s'attarde simplement à trouver bon placement.
Jérôme Froment, déjà investi dans le massage ayurvédique, a découvert cette pratique en 2005, une révélation.
J'étais en train de commencer une formation en massage ayurvédique et je voulais un art martial en complément. Voilà, j'avais besoin de quelque chose qui soit vraiment ancré et enracinant pour le corps. Voilà, je pense que j'avais rendez-vous en fait avec ça. Ça a apporté un équilibre, un bien-être, un dépassement de soi, une source de puissance, de prise de confiance, de bien-être énorme dans mon corps, une ouverture très forte en fait, qui m'a ouvert à de nouvelles sensations. J'en ai transformé mon alimentation, j'ai arrêté le tabac à cette époque. Puis cette pratique a été d'autant plus intéressante et fondamentale pour moi qu'elle a commencé à peu près en même temps que j'ai débuté cette formation de massage ayurvédique. Donc du coup, comme le Kalari Payat est relié à l'Ayurveda, comme il y a des liens assez étroits entre ces deux arts millénaires en fait, qui font partie de la même philosophie. À l'époque, les arts martiaux, le yoga, la méditation n'étaient pas séparés. C'est vrai que d'aller du coup en immersion en Inde, avec toute l'exigence que ça implique, le mode de vie de là-bas, la mentalité, la culture. En plus, la première fois, je suis parti 6 mois. On n'en revient pas indemne, comme on dit. On s'exprime, on incarne des choses qui sont ancestrales. Donc moi j'avais cette fascination aussi pour ça, cette fascination intellectuelle, spirituelle pour ça. Je ne me serais pas vu faire un cours de sport banal sans qu'il y ait d'histoire derrière. Donc là, il y avait une histoire, il y avait une cohérence, il y avait une philosophie de santé.
Une histoire, une cohérence, une dimension spirituelle que l'on retrouve dans les cours.
Et puis ici, on va venir chercher une énergie au-dessus de nous, d'accord ? Une énergie supérieure. On prend l'énergie de l'univers, en quelque sorte, on inspire. On étire, on vient chercher cette énergie. Et puis ici, on descend vers l'avant, vers le sol, entre les pieds. On fait une vague, on inspire, on absorbe l'énergie de la terre sur la remontée. Et on expire ici dans l'étirement. Les genoux sont ouverts, d'accord ?
Et moi, ce que j'avais trouvé extraordinaire avec le Kalari, c'est la puissance du souffle que ça engage, que ça demande, toutes les parties subtiles du corps dans lesquelles ça travaille, au-delà du corps physique, hein, et en même temps, il se passe quelque chose vraiment sur le plan intérieur. Et donc, effectivement, ça invite à la méditation.
Et le parallèle avec le yoga est du coup évident.
Les parallèles avec le yoga, ils sont ancestraux. Ils sont du fait qu'il y a dans les postures, il y a clairement des ressemblances entre la posture équestre qu'on retrouve dans le yoga et la posture cheval qu'on va retrouver dans le Kalari. Dans les postures d'équilibre ou dans les postures d'ancrage, il y a des ressemblances. Dans l'écart des membres inférieurs, ancré au sol, il y a des positions très similaires. Je pense notamment dans les trikonasana, par exemple, les postures de triangulaires en yoga. Voilà, il y a cette position de jambe aussi dans le Kalari. Donc je ne sais pas comment à l'époque les sages de l'époque se sont concertés entre eux pour et qui a influencé qui en premier, parce que ça, l'histoire se perd dans la nuit des temps. Hein, mais les Rishis, de toute façon, les grands sages de l'Inde étaient des yogis, étaient des méditants, et puis les premiers combattants étaient des moines. donc des moines bouddhistes. C'est comme ça que le Kalaripayat a commencé. Donc de toute façon, c'était des êtres qui méditaient. Ils méditaient et puis de la méditation, ils ont fortifié leur esprit par l'apprentissage martial de l'autodéfense. Mais ça ne s'est pas fait sans se connecter aux éléments autour de soi, en ayant une connaissance de l'univers, une connaissance de c'est de là qu'est partie l'histoire des arts martiaux. C'est bien, bien, bien loin des sports de combat que c'est devenu aujourd'hui.
Ok, ça marche. Tout le monde y est. Inspirez, cherchez de l'énergie ici en faisant une brasse, d'accord ? Une vague avec les bras. Et les mains ici passent par les hanches. On souffle.